Et le journal est présenté par Maxime Fayolle. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le procès de l'ex-boxeur gilet jaune Christophe Détinger a commencé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour violence envers deux gendarmes pendant l'une des manifestations de gilets jaunes. Antoine Marette suit cette audience pour France Culture. Une nouvelle loi santé présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Un spectre très large pour cette loi qui va notamment revoir très largement les études en faculté de médecine. Du début avec la suppression du numerus clausus jusqu'à la fin, nous expliquera Tara Schlegel. Nous irons en Espagne où les députés ont rejeté le premier budget présenté par Pedro Sanchez. Après seulement 8 mois passés à la tête du gouvernement espagnol, il pourrait laisser sa place après de nouvelles élections anticipées. L'hypothèse se rapproche, l'analyse de Marie-Hélène Ballestero. Et un nouvel accord commercial pour l'Union européenne, deux accords même entre l'Union et Singapour. Comme ses précédents avec le Canada ou le Japon, ils sont très critiqués par les ONG au nom des valeurs européennes. Marie Viennot viendra nous détailler ces accords. C'est un procès ultra médiatique et qui illustre la violence en marge des manifestations de gilets jaunes qui s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien boxeur Christophe Détinger est poursuivi pour avoir frappé deux gendarmes début janvier pendant le 8e acte du mouvement. La scène avait été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. Les gendarmes ont reçu 2 jours pour l'un et 15 jours pour l'autre d'incapacité totale de travail. Antoine Marette, vous suivez ce procès pour France Culture.
Dans ce procès, ce sont surtout les images qui parlent. Elles défilent tout au long de l'audience. On y voit les gilets jaunes qui s'engagent sur la passerelle Cédar-Senghor en direction des forces de l'ordre qui bloquent le passage. L'affrontement semble inévitable. Christophe Détinger n'est pas le dernier à donner du coup de poing. Les images en attestent. L'homme fin de trentaine, cheveux ras, nez cassé, s'en prend à un gendarme à terre. Coup de poing et coup de pied. Il regrette, tout en se justifiant, il avait vu le CRS s'en prendre à une femme à terre. Je l'ai défendu, c'est mon état d'esprit, je peux pas faire autrement. La femme à la chevelure fuchsia est là, elle est même témoin. Elle confirme avoir été frappée à la matraque par un policier pendant qu'un autre l'a protégée. Et elle est formelle, le policier agressé par Christophe Détinger est celui qui l'a frappé. Maître Leclerc, avocat de la défense, résume ce procès par cette formule « Mon client a voulu réparer une injustice, il en a commis une autre ». Car il y a aussi cette scène de boxe contre un autre gendarme également filmé. « Mon geste, je le regrette », affirme Christophe Détinger qui se justifie une fois de plus. Ce gendarme avait matraqué des gilets jaunes.
Antoine Marette au tribunal correctionnel de Paris. Le mouvement des gilets jaunes qui a également eu un impact économique. De nombreux commerçants se sont plaints d'une baisse de leur chiffre d'affaires depuis la mi-novembre. Une réunion d'urgence a eu lieu cet après-midi à Bercy avec notamment des élus des grandes villes pour trouver une solution après 13 semaines de mobilisation. Un plan d'action pour ces villes est annoncé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Emmanuel Macron qui s'est prononcé lui aussi sur le mouvement des gilets jaunes en Conseil des ministres aujourd'hui. Le chef de l'État estime que les démonstrations de violence doivent cesser et que le temps de la clarification républicaine est venu, je cite. Emmanuel Macron qui a aussi répondu à la tribune de 86 députés pour un retour de la taxe carbone. Ce n'est pas par une hausse de la fiscalité qu'on répondra à la colère, estime le chef de l'État. Une tribune que certains députés regrettent presque déjà d'avoir signée. C'est le cas de Jean-François Cesarini, député LREM de Vaucluse, pour qui il y a un problème de timing.
Nous, on l'a signé il y a 10 jours, cette tribune. Et c'est pas la seule tribune que je signe avec Mathieu Orphelin depuis longtemps. Mais entre-temps, il démissionne avec une lettre extrêmement violente sur le gouvernement et il sort la tribune avec 80 signatures, dont beaucoup de gens de la majorité. Il y a là quelque chose, une forme d'instrumentalisation qui est un peu compliquée. Même si c'est le même texte et que sur le fond, on est d'accord. Mais le contexte n'est plus le même. Et aujourd'hui, effectivement, dire ça, on fragilise plutôt le gouvernement par ce timing-là et aussi par qui le dit qu'on aurait pu le dire avant pour juste aiguillonner le gouvernement pour qu'il aille plus loin. C'est pas la même chose. Imaginons que en tant que non-inscrit aujourd'hui, et après ce qu'il a dit sur le gouvernement, il propose cette tribune, vous êtes vraiment sûr qu'il y aurait 80 signataires? Moi, je ne crois pas. Mais le fait de le sortir maintenant, et qu'il y a une forme de dire, regardez, en fait, ils sont plutôt d'accord avec moi. Mais d'accord avec quoi? La tribune ou la lettre de démission? Et tout ça est très flou et très bien orchestré. Je pense qu'il faut faire attention à ça, de ne pas instrumentaliser ses anciens camarades.
Jean-François Cesarini à l'Assemblée nationale cet après-midi avec Rosalie Lafarge. L'Assemblée et son président Richard Ferrand qui propose la candidature d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. L'ancien Premier ministre devra d'abord démissionner de la mairie de Bordeaux. 3 postes sont à pourvoir au Conseil. Et si les 2 autres noms ne sont pas vraiment une surprise, Stéphane Robert, celui d'Alain Juppé en revanche en est une.
Oui, car ce genre de nominations font l'objet de discussions de couloirs et de tractations durant des semaines, voire des mois avant leur officialisation. Et jusqu'ici, il y avait 3 noms question qui revenait avec insistance. Pour le président du Sénat, Gérard Larcher, le choix est semble-t-il arrêté depuis longtemps. Il avait prévu de désigner le sénateur du Cher, François Pillet. Et c'est bien François Pillet qu'il propose pour le poste, aucune surprise de ce côté-là. Le président de la République lui avait l'intention, nous disait-on, de nommer au Conseil constitutionnel l'actuel président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Ce qui aurait permis de libérer la place à la Cour des comptes pour l'actuel commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, dont le mandat arrive à échéance d'ici quelques mois. Finalement, exit Didier Migaud, Emmanuel Macron propose l'ex-ministre Jacques Mézard. Jacques Mézard qui, à l'origine, était pressenti pour être le candidat proposé par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Et c'est là qu'intervient la surprise et que surgit le nom d'Alain Juppé, jamais évoqué jusqu'ici. On ne savait pas qu'il se voyait un destin au Conseil constitutionnel, ni qu'il envisageait d'abandonner si tôt sa mairie de Bordeaux, ce qu'il va faire apparemment dès demain. Alors ça pose un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas de réponse pour le moment. Plusieurs de ses proches contactés au cours de la dernière demi-heure répondent avec ces expressions convenues qui ne disent pas grand-chose. C'est une excellente nouvelle pour la France, il a l'envergure pour le poste. Ou bien, avec cette formule définitive et un peu sèche, aucun commentaire.
Stéphane Robert, et maintenant c'est au Parlement de valider ses propositions pour une prise de fonction qui interviendra le 12 mars et pour 9 ans. Assemblée nationale et Sénat qui auront aussi à se prononcer dans les prochaines semaines sur la réforme de la santé présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle prévoit notamment une réforme de la carte hospitalière par ordonnance. Plus de 500 hôpitaux seront labellisés hôpitaux de proximité, recentrés sur la médecine générale, c'est-à-dire sans chirurgie ni maternité. Une réforme qui prévoit également la réforme des études de médecine avec suppression du numerus clausus. Mais le gouvernement n'envisage pas des changements qu'au début de ses études de médecine, Tarache Légal, mais aussi à la fin et à l'aube de l'internat.
Oui, en sixième année actuellement, l'examen national classant départage en 3 jours 8400 étudiants, c'est premier arrivé, premier servi, premier donc à choisir sa spécialité, celle qu'il va exercer toute sa vie. Or, Clara Bonavion récuse ce mécanisme.
Quand on réfléchit, pourquoi est-ce que les 100 premiers auraient plus le droit de devenir radiologue que le 5000e sur 8000e? En fait, il n'y a pas de raison, telle ou telle spécialité ne nécessite pas plus ou moins de connaissances.
Le syndicat de Clara se bat donc pour un nouvel examen qui évaluerait des connaissances évidemment, mais aussi permettrait à l'étudiant de préparer un projet professionnel. Alice milite aussi à la NEMF, elle étudie à Nice et revient sur les avantages d'un tel projet.
Pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, à faire de l'associatif, faire des doubles cursus, faire plus de recherches, faire d'autres stages à l'international, en fait de chercher à valoriser l'étudiant et ne plus le réduire à seulement des connaissances. Aussi, on lui évaluera ses compétences, parce que être un bon médecin, c'est pas seulement savoir les pathologies sur le bout des doigts, c'est aussi communiquer avec les patients, faire une prise en charge, des examens, où on va être vraiment évalué sur notre compétence à pratiquer la médecine et non pas seulement à répondre à des QCM.
Moins de QCM, plus d'importance dévolue à la relation médecin-patient. Voilà qui inquiète néanmoins certains étudiants comme Bérangère. Elle est en troisième année à Paris Descartes.
Ça part d'un vrai constat et d'un vrai problème. Mais encore une fois, les QCM, c'est une solution très efficace parce que c'est vrai ou c'est faux, quoi. Alors que de l'empathie, juger de l'empathie, effectivement, c'est très important et je ne remets pas du tout ça en cause. Mais juger de l'empathie, ça dépend du correcteur, de l'environnement, de tellement de choses. Et on a vraiment peur que nos concours soient presque de la chance, quoi, et de la roulette russe.
Pour l'instant, la teneur précise du nouveau concours n'est pas finalisée.
Tarache Légal et autres projets de loi qui est en discussion cette fois à l'Assemblée nationale sur l'école de la confiance avec une question centrale, celle du harcèlement scolaire. Il faut savoir que chaque année, un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Les députés ont adopté un amendement pour un droit à une scolarité sans harcèlement. Il va permettre de faciliter les sanctions disciplinaires pour ceux qui harcèlent, axé sur la sensibilisation des élèves, mais aussi sur la formation des personnels à un phénomène qu'il faut savoir détecter rapidement, explique la pédopsychiatre Nicole Catlin.
C'est vrai qu'il faut déjà qu'on forme des adultes pour pouvoir encadrer ces stages et proposer ces stages aux enfants. Il y avait déjà une politique donc de formation des formateurs. Elle va, je pense, s'intensifier grâce à ce texte. Et il va y avoir une mise en œuvre, sans doute, un peu plus sur le terrain. Parce que ce qui était un peu ennuyeux, c'est que beaucoup de cadres de l'éducation ont été formés, mais sans doute pas suffisamment les enseignants eux-mêmes qui sont en contact des enfants. Si on veut vraiment s'attaquer au problème, il faut bien sûr s'occuper des enfants, victimes harceleurs, l'on vient de le voir, mais s'occuper aussi des adultes. Et la première des choses, c'est que les adultes s'écoutent, se croient et s'entendent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand des parents arrivent voir un enseignant, ils s'entendent dire « oui, mais vous surprotégez votre enfant » ou « votre enfant n'est pas le dernier à embêter les autres ». De leur côté, il ne faut pas non plus que les parents attaquent systématiquement l'école en disant « vous n'avez rien vu, c'est de votre faute ». Si les adultes sont capables de régler des conflits, ils offrent des modèles identificatoires aux enfants. S'ils ne sont pas capables de régler des conflits entre eux, bah c'est bien normal que les enfants n'en soient pas capables non plus. Le taux de harcèlement augmente à chaque fois qu'il y a des conflits dans un établissement. C'est ce qu'Éric Debarbieux a dénoncé sous le terme de climat scolaire, en disant un mauvais climat scolaire augmente le taux de harcèlement dans un établissement. Et il faut que les parents n'aient plus peur d'aller voir des enseignants pour dire « mon fils est victime ». Et il faut aussi que les parents acceptent, et ça c'est beaucoup moins facile, que les enseignants disent bah, « peut-être que votre enfant est harceleur ». Parce que ça aussi, c'est pas très facile à entendre pour des parents.
La pédopsychiatre Nicole Catlin avec Hakim Kasmi. Jérôme Cahuzac va effectuer sa peine avec un bracelet électronique. Un juge d'Ajaccio accepte la demande de l'ancien ministre, condamné à 2 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment. Le parquet a décidé de faire appel de cette décision. Carlos Ghosn, lui, ne touchera pas son indemnité de non-concurrence. C'est ce qu'annonce le conseil d'administration de Renault, dont Carlos Ghosn a démissionné. Une prime qui représente 2 ans de rémunération fixe et variable, soit au total près de 30 millions d'euros pour Carlos Ghosn. 18h11 sur France Culture. L'Espagne se dirige vers de nouvelles élections législatives anticipées. Après le rejet par les députés du premier budget du chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, au pouvoir depuis seulement 8 mois. Un échec dû au vote des députés de droite, mais aussi des indépendantistes catalans et des libéraux de Ciudadanos. Et ce n'est finalement pas une surprise. Le reportage de Marie-Hélène Ballestero.
Par conséquent, les amendements sont approuvés, donc le projet de loi de budget 2019 est rejeté.
Comme prévu, il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. Pourtant, jusqu'à la fin, les nationalistes basques Podemos et les socialistes ont tenté de convaincre les indépendantistes catalans de débloquer la situation. Mais ces derniers avaient mis la barre trop haut. Pour soutenir le budget de Pedro Sanchez, ils réclamaient en contrepartie que soit accepté le droit à l'autodétermination du peuple catalan. Une ligne rouge que le gouvernement socialiste a rejetée. Résultat, le budget annuel n'a pas été approuvé au Parlement et par conséquent, Pedro Sanchez se retrouve dos au mur avec une législature qui semble toucher à sa fin. Ce qui ravit le leader de l'opposition et président du Parti populaire, Pablo Casado.
Aujourd'hui, nous avons contribué à la prise d'une décision au Parlement qui marque, je crois, un point d'inflexion dans la législature. Ou plutôt, cela marque la fin du voyage de Pedro Sanchez à la tête du gouvernement. Je veux transmettre un message de confiance à tous les Espagnols. Le Parti populaire reste le principal parti en Espagne et nous sommes prêt à revenir à la tête du gouvernement.
9 mois après son arrivée au pouvoir, Pedro Sanchez est sur la sellette. Il devrait convoquer des élections législatives anticipées. La presse espagnole a avancé plusieurs dates possibles d'un scrutin, 14 avril, 28 avril ou 26 mai. C'est Pedro Sanchez qui doit désormais prendre cette décision. Il doit annoncer la date vendredi prochain à la sortie du Conseil des ministres.
Marie-Hélène Ballestero. Haïti s'attend à vivre une nouvelle journée de tension. Les manifestants réclament la démission du président au pouvoir depuis 2 ans, dans un pays où la population vit dans des conditions très compliquées. Depuis le début de la contestation, au moins 6 personnes ont été tuées. La France contre-attaque dans le dossier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Le dossier, vieux de 30 ans, est jugé non rentable par des experts italiens. Un rapport publié hier. Aujourd'hui, les principaux acteurs économiques et politiques sont montés à Bruxelles pour défendre le Lyon-Turin auprès de la Commission européenne qui finance cette opération, Johanna Hochstein.
Les promoteurs du projet sont venus chercher du soutien auprès de la Commission européenne alors que le contexte est de plus en plus tendu. On se serait bien passé de la publication de ce rapport confié les responsables de la Transalpine, le consortium qui construit le tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Un rapport qui, disent-ils, a été conçu de manière partielle, est incomplet et erroné. 6 des 7 experts qui l'ont rédigé se sont toujours publiquement affichés contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin, explique le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Étienne Blanc, reçu ce matin par la Commission européenne. Et puis, le rapport ne prend pas en compte les conséquences de l'abandon du projet. Remboursement de l'argent déjà perçu par les autorités italiennes, remise en état du chantier, etc. Une facture qui pourrait s'élever à plusieurs milliards d'euros pour l'Italie. Mais malgré ce climat morose, Étienne Blanc de la région Auvergne-Rhône-Alpes ressort plutôt confiant de son entretien avec les autorités européennes.
Pour la première fois, la Commission annonce qu'elle est d'accord pour financer les voies d'accès au Lyon-Turin. Et un des sujets de discussion avec nos partenaires italiens, c'est l'amortissement du coût du tunnel de base, le tunnel qui passe sous les Alpes. Et l'amortissement, il dépend de la quantité de fret qu'on va amener sur ce tunnel. Et pour amener ce fret, il faut des voies d'accès. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette bonne nouvelle permettra-t-elle de convaincre les opposants au projet, le mouvement 5 étoiles notamment? Il en sera question demain lors d'une nouvelle réunion à Bruxelles entre les autorités italiennes cette fois-ci et la Commission européenne.
Les précisions de Johanna Hochstein. Les chiffres du chômage dans le monde sont en baisse. Le taux est même retombé à son niveau d'avant la crise de 2008. Dans le monde, 172 millions de personnes sont sans emploi selon l'Organisation internationale du travail, ce qui représente 5% de la population. Mais l'OIT n'est pas très optimiste sur la suite des événements et pointe déjà des signes de détérioration des perspectives économiques mondiales. L'Union européenne, elle, conclut deux accords commerciaux avec Singapour. Comme précédemment avec le Canada ou le Japon, le Parlement a approuvé ces accords aujourd'hui. Singapour, c'est un partenaire privilégié de l'Union dans la région. Plus de 50 milliards de marchandises sont échangées chaque année, autant en services. Et ces accords contiennent de nombreuses clauses, Marie Viennot, qui sont déjà critiquées par certaines ONG.
Oui, et si Singapour, cité État insulaire de 6 millions d'habitants, est un partenaire si important, c'est parce que les entreprises européennes l'utilisent comme plaque tournante pour desservir ensuite les autres pays de la région Pacifique. Avec l'accord commercial approuvé aujourd'hui par le Parlement européen, les droits de douane et les obstacles tarifaires seront levés. Le problème, soulevé par des ONG comme Foodwatch, l'Institut Veblen, la Fondation Hulot et les eurodéputés socialistes qui ont voté contre aujourd'hui, est triple. Il y a d'abord le fait même de négocier un accord de libre-échange avec Singapour. Car Singapour n'a pas ratifié plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail, notamment celle sur la liberté syndicale. Singapour est aussi un centre financier très important, mais plutôt opaque. Et enfin, Singapour n'est pas un État très allant sur les questions climatiques dans les sommets internationaux. Il y a dans l'accord des engagements en faveur des droits du travail et de la protection de l'environnement et l'Union européenne pourra s'appuyer dessus par la suite pour pousser Singapour à évoluer. Mais les détracteurs de ces accords regrettent, c'est leur deuxième problème, que cela n'ait pas été un préalable pour négocier et que ces deux volets, climat, social, ne soient pas contraignants. Troisième critique sur le deuxième accord qui prévoit lui la création d'un tribunal spécial chargé de trancher les différends entre États et investisseurs. Pour l'accord avec le Canada, cela avait suscité tout un débat. Cette fois, non. Les ONG craignent toujours que cela empêche des États de changer leur législation sanitaire ou financière, par exemple, de crainte de se faire attaquer. Mais peut-être que ce débat ressurgira, qu'à cet accord-là de protection des investissements doit être maintenant ratifié par chacun des parlements de l'Union européenne.
Marie Viennot. Google condamné aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Paris. Une amende de 30 000 euros à régler à l'association de consommateurs UFC Que Choisir. La justice reconnaît le caractère abusif ou illicite de plus de 200 clauses de Google, des clauses dans ses conditions d'utilisation. Bonsoir Audrey Dumas.
Bonsoir Maxime Tellier.
Il n'y a pas de souci. Pour quelle raison, Audrey, ces clauses ont-elles été retoquées par la justice?
Concrètement, Maxime, il est reproché à Google de ne pas informer clairement ses utilisateurs de la manière dont ils collectent les données personnelles et surtout leur finalité. Pour l'UFC Que Choisir, cette condamnation du tribunal oblige donc le géant américain à plus de transparence. Google doit rappeler que son activité porte d'abord sur l'exploitation de nos données à des fins publicitaires. Cette condamnation pointe également des conditions d'utilisation noyées dans des pages d'informations et des termes techniques. Raphaël Bartholomé est responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir.
Prenons l'exemple de la géolocalisation permanente de l'ensemble des utilisateurs. Quand je m'inscris sur Google, j'accepte en une fois et de façon globale l'ensemble des conditions d'utilisation et des règles de confidentialité. Ce que nous dit le tribunal, c'est que cette méthode n'est pas la bonne. Google doit s'assurer pour chaque finalité d'obtenir un accord express des consommateurs, quitte à devoir cocher 25 cases, mais au moins que les utilisateurs aient conscience du principe de la collecte et de ce qui va en être fait de ces données.
Alors ce jugement ne concerne que les données collectées entre 2012 et 2016. Des clauses ont depuis été mises à jour, mais l'UFC Que Choisir invite ardemment Google à comparer les anciennes et les nouvelles clauses, à vérifier si elles pourraient être considérées comme abusives, au risque de se retrouver à nouveau assignées en justice. De son côté, Google rappelle que cette décision ne concerne que la version de Google+, un service qui doit fermer au mois d'avril. Le géant qui peut faire appel du jugement va maintenant prendre le temps d'examiner la décision et envisager, je cite, des prochaines étapes.
Audrey Dumain. Le temps de ce jeudi, c'est du soleil sur encore presque tout le pays. Quelques ondées sur le nord-est. Les températures restent douces en matinée de 1 à 11 jusqu'à 16 sur le sud-ouest en après-midi. Ce journal a été préparé et réalisé par Jean-François Braun avec Anthony Thomasson à la technique.